C'est la référence mondiale pour connaître la facilité de réparation d'un produit Apple. iFixit, né aux US, a désormais des antennes en Europe. Thomas Hobsomer d'iFixit Europe est notre invité pour parler réparation d'iPhone, de Mac et autres, mais aussi de cet indice de réparabilité qu'Apple a intégré à son site web en France pour respecter la loi relative à l'économie circulaire. Un iMac à processeur Apple repéré dans un rapport de crash system apparu sous les yeux ébahis d'un développeur installé à Berlin, on va tout vous expliquer. Un casque de réalité augmentée Apple avec tracker de rétine, c'est au menu du dîner d'Eli. Et puis le tuto audio, comment créer vos gifs animés sur votre iPhone. Vous savez quoi? C'est l'épisode 30 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et dans 10 jours, ça fera 7 mois qu'on a eu le plaisir de relancer iWeek en podcast. Ce podcast audio qui est au rendez-vous chaque semaine le jeudi avant 20h et qui est devenu le podcast de référence sur l'écosystème Apple. Alors abonnez-vous, iWeek est présent sur les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast notamment. Et mettez-nous une note 5 étoiles, bien évidemment. Bonjour à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis très fier, on est très fier d'en être là aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, grâce à vos soutiens sur Patreon, patreon.com/iWeek. Il va d'ailleurs y avoir du changement, de la nouveauté. Et je vais tout vous expliquer dans la dernière partie de cet épisode. Salut la team iWeek. Eli Abitbol d'abord, salut Eli.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde.
Et salut François, François le Truédic.
Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir.
Absolument, alors aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel. Si je vous dis iFixit, oui, le site de référence sur la réparabilité des produits Apple est désormais bien au-delà. Tout a commencé, paraît-il, en Californie en 2003 à cause d'un mode d'emploi introuvable, celui de l'iBook G3, vous savez, la fameuse palourde. Bonjour Thomas Hobsomer.
Bonjour, bonsoir à tous.
Bienvenue dans iWeek.
C'est un plaisir d'être là.
Eh bien, merci beaucoup à toi d'être avec nous. Alors, tu es... on traduit ton titre par ingénieur chez iFixit Europe?
Oui, vous pouvez dire porte-parole en termes de réparabilité.
Très bien. Porte-parole en termes de réparabilité, ça me va très très bien. Sois le bienvenu donc. On va évidemment revenir avec toi sur iFixit, sur cette histoire assez incroyable, sur votre vocation aussi, hein, pour ne pas dire votre mission. Mais juste comme ça, pour un avant-goût, c'est quoi votre credo chez iFixit, Thomas?
Notre credo, c'est « si vous ne savez pas le réparer, vous ne le possédez pas. If you can't fix it, you don't own it. »
Très intéressant. Mmh. Et on voit, quand on veut réparer du matériel, notamment du matériel Apple, que sans un coup de main assez sérieux, notamment de votre part, bah c'est très difficile, ça reste souvent très difficile de mettre les mains dedans.
Effectivement, c'est souvent fort problématique, oui.
Alors l'actu Apple, évidemment, c'est cet indice de réparabilité que la marque à la pomme a été obligée d'intégrer à son site web en France pour chacun de ses produits majeurs. Alors ça date d'il y a quelques jours. Quel est votre regard, Thomas, chez iFixit, sur la manière dont Apple respecte la loi française anti-gaspillage qui est relative à l'économie circulaire avec cet indice qui a donc fait son apparition?
Oh, ce n'est pas vraiment une matière sur laquelle il faut avoir une opinion. Il y a une loi, il la respecte, c'est le minimum qu'il puisse faire et donc ça montre l'utilité de la loi parce que c'est une chose qu'il n'aurait jamais faite s'il n'y était pas contraint, quoi.
Bien sûr. Bon, on va y revenir hein, dans un instant ensemble, Thomas. On va voir si cet indice Apple se rapproche un peu ou pas du tout des vôtres. Et puis, on va revenir sur votre histoire et sur votre mission. C'est un iWeek plus dense et plus court que vous découvrez aujourd'hui, chers amis. Et oui, on tient compte de vos retours, de vos remarques, de vos critiques parfois, de notre propre sentiment aussi. Et on essaye de porter un regard objectif sur chaque épisode. Alors même si on adore être avec vous sur la durée, on s'est promis de faire plus court et de tenir la promesse d'une heure sauf exception bien sûr, ou actu majeur, on sait que ça va arriver. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier forcément, Thomas nous faisant le plaisir de sa présence, pas de vue d'ailleurs avec Jean-Christophe à qui j'envoie une bise, pas de maison connectée non plus François.
Non, bah j'ai reçu du matériel pas plus tard qu'aujourd'hui, donc je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine, mais je voulais me laisser le temps de le tester.
Voilà, et de le tester sérieusement, c'est tout à ton honneur. Deux rendez-vous que vous retrouverez bien sûr dès la semaine prochaine, comme le test de la semaine. Et à partir de la semaine prochaine, c'est promis, il y aura vraiment un test chaque semaine dans A-Week. Voilà les bonnes résolutions de cet épisode 30. On a d'autres nouvelles à vous annoncer à la fin de ce podcast et encore d'autres à dégainer dans les jours et les semaines qui viennent, et elles sont plutôt bonnes. Dans un instant, les news, c'est Pommes, le JT de la semaine. A tout de suite. Pommes, les infos de la semaine qui méritent d'être sauvegardées et d'avoir en tête. On commence par cet indice de l'arrivée d'un iMac ARM, donc à processeur Apple. L'info date d'hier, François. Et elle a l'air assez sérieuse, puisqu'elle vient en fait d'Apple indirectement.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un développeur qui a reçu un crash report. Donc, vous savez, quand vous avez une application qui crash sur le Mac, même si ça arrive très rarement, de temps en temps, vous avez cet écran qui vous dit est-ce que vous voulez envoyer le crash ou pas. Donc, vous pouvez l'envoyer à Apple, mais vous pouvez aussi l'envoyer au développeur. Et donc, le développeur en question, qui s'appelle Denis Oberhoff, avec un très bon accent allemand, vu qu'il est berlinois, qui développe une application qui s'appelle Daft Cloud, et en fait, qui a eu un crash report d'un iMac à processeur ARM. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on évoque depuis un petit paquet de mois maintenant, l'iMac ARM 64 natif, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'ARM pur, c'est pas de l'émulation. On peut s'attendre à ce que ça arrive rapidement, j'espère, mais quoi qu'il en soit, c'est dans les tuyaux.
Ellie, pas surpris par ce rapport de crash ?
Ben non, parce qu'en fait, ça vient conforter ce qu'on dit depuis effectivement quelques émissions, qu'Apple sortirait plus tôt que prévu un iMac à processeur donc Apple. Par contre, est-ce que ça arrive tout de suite ? Ben, si ça continue à crasher, peut-être pas, mais en tout cas, ça existe.
Thomas, je ne sais pas si tu as une vision des matériels Apple sur lesquels vous avez le plus de demandes, mais... L'iMac fait partie des produits les plus populaires, évidemment.
Oui, ben, la demande, elle est grande pour les tutoriels de réparation pour tous les produits Apple. Hein. Donc, on les critique souvent, mais en même temps, il faut quand même être conscient du fait qu'ils font généralement des produits de bonne qualité, qui durent longtemps. Et donc, il y a vraiment aussi une demande pour la réparation de ces produits-là qu'on ne retrouverait pas pour des produits un peu plus bas de gamme.
Et les générations d'iMac, on dit depuis longtemps dans A-Week que le design n'a pas évolué depuis plus de 10 ans, mais est-ce que ces machines sont problématiques en termes de réparation quand le particulier veut mettre les mains dedans ?
En termes de réparation, les ordinateurs portables sont les plus problématiques. Les fixes, généralement, ça va encore. Donc, c'est surtout la colle qui va vraiment mettre des bâtons dans les roues. Et ça, on trouve surtout dans les portables. Et donc, les desktops, en général, ça va encore.
Parce que la colle est utilisée donc pour coller comme ça, hein, comme vous le devinez, si vous ne l'avez jamais fait. Le problème, c'est que pour décoller de la colle, hein, qui souvent tient très très bien, il y a toujours un risque d'arrachement, évidemment. Il faut parfois utiliser des sèche-cheveux, mais en tout cas des... Comment on appelle ça ?
Des décapeurs thermiques.
Des décapeurs thermiques, merci.
Oui, c'est ça, des pistolets à air chaud. C'est la procédure, hein. Il faut chauffer l'appareil à 80 degrés pour que la colle lâche. Donc sinon, c'est quasiment pas faisable. Ben mais oui. Bon, sur un petit téléphone, c'est aussi plus facile que sur un grand ordi. Si vous devez chauffer tout le pourtour, ben, vous y mettez un moment, quoi.
Oui. Voilà. Bon, en tout cas, donc des indices d'une arrivée prochaine d'un iMac à processeur Apple. On vous le disait ces dernières semaines, c'est en train de se confirmer d'une certaine manière. On dit un mot de la débâcle John Prosser. Ça fera plaisir à Jean-Christophe qui nous écoutera évidemment en replay. Dans la nuit de mardi à mercredi, le leaker a tweeté une info de dernière minute, je cite, hein, « Apple a envoyé des invitations pour un événement le 23 mars ». Et le texte était accompagné d'un visuel avec ce titre « See you hair », hair en anglais, H-A-I-R comme les cheveux. Autrement dit, en français, « à bientôt les cheveux ». Et en arrière-plan, on distinguait une vingtaine de rasoirs et de tondeuses à barbe. Bon, autant vous dire que l'ami John Prosser est allé un peu vite et que pour l'instant, il n'y a pas de keynote confirmée pour le 23 mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu dans 5 jours, mais en aucun cas, le visuel envoyé avec son tweet ne ressemble à ce que serait l'invitation officielle authentique, à moins qu'Apple lance un sèche-cheveux, mais c'est peu probable.
Ça ne nous intéressera pas trop. Hein.
Voilà, c'est ça. Élie, ça sent comment pour le 23 ? On est quand même à 5 jours, hein ?
Bah, ce qui m'inquiète, c'est que justement, ça sent pas. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit, ça a commencé à sentir bon, la keynote, on s'y préparait même. Et puis, les dernières rumeurs, aussi bien sur ces AirPods de troisième génération que sur le iMac, que sur l'iPad Pro à écran mini LED, etc., semblent se décaler dans le temps, certains pour plutôt la fin du printemps, voire début de l'été, certains pour la rentrée. Et du coup, s'il n'y a pas d'iPad, s'il n'y a pas d'iPod, et s'il n'y a pas... D'iPod, qu'est-ce que je raconte ? D'AirPod, excusez-moi.
Ça, il n'y en aura pas d'iPod, je pense, c'est ça. sans vouloir être trop pessimiste.
Je ne sais pas pourquoi, ce produit merveilleux...
Ni d'écouteurs Bluetooth.
Ouais. Donc, pas d'AirPod et pas d'iMac, ben, on ferait une keynote avec quoi ? Avec l'Apple TV ? Yes ! Certes, mais... Avec les AirTags ? Ouais. Peut-être, mais du coup... Pas d'invitation et des produits qui semblent reculer parce que Apple aurait eu des problèmes d'appro avec certains fournisseurs qui se donnent déjà beaucoup de mal à fournir les quantités qu'Apple leur demande sur les produits existants déjà. Ben, du coup, peut-être pas de keynote, hein. Et alors, du coup, ben, on est un peu déçus.
François, tu le sens comment pour le 23 ?
Pas très bien, pas très bon. Je pense que on va gentiment arriver début avril, à mon avis. C'est étonnant, mais ou alors on va avoir le droit à ce qu'on a beaucoup lu sur les réseaux sociaux, si c'est juste l'iPad Pro, une petite mise à jour, ce sera un communiqué de presse et puis en avant Guingamp, quoi. Mais je sais pas, je dis plus rien, parce que pour l'instant, toutes mes prédictions sur le mois de mars ont été erronées, donc je me tais et j'attends.
Thomas, chez iFixit, j'imagine que vous vous tenez au courant de très près des annonces Apple, non ?
Oui, tout à fait. Maintenant, ce n'est pas mon créneau, mais oui, notre équipe aux USA, ils suivent tout ça de très près, puisqu'évidemment, dès qu'un nouveau produit arrive sur le marché, nous voulons en fait le désassembler, voir ce qu'il y a dedans, coller une note de réparabilité dessus. Et donc, nous guettons vraiment ça pour être parmi les premiers à avoir ces produits dans les mains, évidemment.
Ouais. Toi, tu es chez iFixit depuis combien de temps, Thomas ?
Moi, ça fera bientôt 6 ans.
Eh oui, donc tu as vécu l'arrivée en Europe alors ?
Pas tout à fait, donc iFixit a été établi en Europe en 2013 et moi je suis venu une année et demie après je pense. Oui, d'accord. Tout à fait. Et donc la succursale européenne pour ainsi dire elle est installée à Stuttgart, mais moi je travaille depuis Bruxelles puisque je travaille surtout sur des projets de recherche et de politique. Et donc moi j'essaie vraiment d'influencer la politique européenne pour qu'elle soit plus propice à la réparation. Et ouais. Ça évidemment c'est à Bruxelles qu'il faut le faire et pas à Stuttgart.
Ouais, tu es un petit peu un lobbyiste en fait, c'est ça ?
Oui, je suis un gentil petit lobbyiste, oui, on peut dire ça comme ça. Il en faut de bons aussi, hein ?
Oui, alors, en interne chez iFixit, vous pariez sur une keynote pour quand ?
Oh, je vais pas m'avancer, vraiment. Je ne pourrais que dire des conneries, non.
Je sais, c'était une question.
C'est une question
piège. Une question légèrement piège, exactement.
Oui, c'est ça.
Bon, autre news, Élie. Après Apple, Google baisse à son tour certaines commissions sur son store de 30 à 15%, les commissions développeurs.
Ben oui, en fait, Google fait un peu du tipiak, hein. Ils copient un peu Apple et ils passent leur commission effectivement de 30 à 15, mais avec quand même des petites variantes, c'est-à-dire que ils vont le faire à partir du 1er juillet, mais ils vont le faire uniquement pour le premier million de dollars de revenus des développeurs.
Donc même critère.
Voilà.
Même critère. Les relations entre Apple et la Russie. Apple avait cédé auprès de la Chine sur un certain nombre de points. Apple vient de céder devant les demandes des autorités russes en proposant une série d'apps largement choisies par le gouvernement.
Oui, avec une petite précision, c'est-à-dire que Apple évidemment ne préinstalle pas ses applications dans les téléphones comme pouvait faire Microsoft à une époque sur certains logiciels. Mais dans le processus d'installation de l'appareil, lorsqu'on est en train de répondre aux premières questions, sur est-ce que vous voulez du Trouton ou pas, est-ce que vous voulez utiliser tant d'écrans, vous voyez ce processus qu'on fait la première fois qu'on active un appareil, il y a une question qui vient s'interposer qui dit: voulez-vous installer les applications conseillées par le gouvernement? Donc si à ça vous répondez oui, vous avez accepté, et là il vous les installe d'office
et vous êtes un bon citoyen.
Et vous êtes un bon citoyen. Si vous répondez c'est... non, je pense que le gouvernement russe a le moyen de le savoir. Et dans lequel cas, vous risquez de passer quelques vacances dans le goulag avec votre iPhone à moitié installé. Mais bon.
Bon, on en rit, mais c'est pas très drôle. Hein.
Non.
Bon. Retour en France, Élie. On a parlé il y a une ou deux semaines de cette plainte de France Digital qui regroupe environ 2000 startups françaises. Sur les publicités Apple activées par défaut sur iPhone depuis la dernière mise à jour d'iOS, ça y est, la plainte est à la CNIL.
Voilà, elle a été reçue. En fait, on se disait peut-être que ça a été tenté, mais que ça n'ira pas plus loin. Et ben si, cette fois-ci, c'est la CNIL qui a décidé d'examiner cette demande de France Digital. On le rappelle que France Digital regroupe à peu près un peu plus de 1800 startups, et eux se plaignent que les conditions de publicité sont pas équitables entre des développeurs, les startupeurs, et Apple, qui lui-même a des applications, bien sûr. Hein, donc, on attend de voir ce que ça va donner. Hein. C'est quelque chose qui est en cours. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il y a une haute autorité française qui accepte de se pencher sur ce problème. Oui.
Thomas Hobsommer, iFixit Europe, c'est plus le genre de sujet que tu suis, j'imagine, ça.
On est vraiment axé sur tout ce qui est longévité des produits, réparation. Apple est tellement, tout ce qu'ils font c'est tellement vaste, nous mènerait vraiment trop loin d'aller fouiller dans tout ça. Donc nous on est vraiment, dès que évidemment ils font des choses qui par exemple par des autorités compétentes au niveau de la concurrence sont examinées en ce qui concerne par exemple la concurrence équitable entre les réparateurs indépendants et les réparateurs agréés, ça c'est le genre de choses qui nous intéresse vraiment, mais au niveau de la publicité on n'est pas trop actif.
Alors je ne t'ai pas présenté Élie Abitbol qui est là à côté, que tu vois sur ton écran, qui est donc un des membres historiques de l'équipe d'iWeek. Peut-être qu'Élie, je peux te laisser rappeler qui tu es, parce que ça va forcément intéresser Thomas.
Oui, bien sûr. Bah, en fait, moi, je suis tombé dans l'univers Apple 20 ans, hein, donc en créant la première boutique dans la Côte d'Azur qui vendait des ordinateurs Apple II, c'était en 1980. Et depuis, on a toujours été Apple, donc on est passé par toutes les étapes, hein, Apple Center, Apple Premium Reseller, etc. Et on a un centre de service, on en a même aujourd'hui 4, agréé Apple. Et évidemment, nous sommes donc des grands clients iFixit, puisque tous nos techniciens sont équipés de la tête aux pieds, avec les mallettes, les trousses d'outils pro, les tapis antistatiques, et on utilise évidemment tous les outils possibles et imaginables pour réparer les machines.
Ben, c'est super. Et ça me mène immédiatement à une question, si je peux me permettre. Comme vous êtes réparateur Apple agréé, est-ce que vous ne ressentez jamais ce statut comme restrictif par rapport aux réparations qu'Apple vous permet d'effectuer? S'il y a moyen de répondre à cette question un peu sensible.
Oui, non, bien sûr. En fait, chez iWeek, on a une totale liberté. On a plusieurs personnes d'Apple qui nous écoutent. Hein, donc, généralement, on dit vraiment ce qu'on pense, hein, des fois en bien, des fois en moins bien. Oui, bien sûr qu'on a des restrictions, parce qu'on est obligé d'appliquer strictement les consignes de réparation. Il y a des produits qu'on pourrait réparer, qu'on est obligé de renvoyer parce que le processus de réparation dit renvoi centralisé chez Apple. Bon. Et il y a des produits que Apple nous dit il faut réparer alors que nous, on voudrait bien les renvoyer parce que c'est un peu compliqué. On subit les process de garantie hors garantie. Des fois, ils nous disent non. Vous n'avez pas le droit de réparer. Le client appelle Apple Assistance qui lui dit on va vous faire un remplacement alors que nous, ils nous l'ont refusé. C'est-à-dire pour le même dossier, nous, on demande un remplacement. Apple nous dit non à nous, ils disent oui au client. Donc des fois, c'est un peu frustrant. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Hein. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer parce que ce n'est pas dans le process. De même qu'on suit les systèmes de réparation, les tutoriels, les vidéos. Alors évidemment, on regarde les vôtres avec grand intérêt et on regarde aussi celles qu'Apple nous donne et on essaye de faire un mélange des deux, même si on est plutôt censé suivre celle du constructeur. Hein. Donc,
oui.
On ne peut mettre que des pièces Apple, par exemple.
Parce que c'est quand même une chose qui interpelle. Quand on voit, par exemple, aux États-Unis, vous connaissez sans doute la chaîne YouTube de Jessa Jones, The Microsoldering Mom, et donc qui est très active aussi sur les forums d'Apple et qui vraiment à répétition se heurte à ce problème qu'il y a un problème technique tout à fait réparable, qu'elle serait donc à même de réparer. Elle peut le faire puisqu'elle n'est pas réparatrice agréée, mais quand elle poste sur le forum d'Apple qu'une telle réparation est possible, on efface en fait ces posts parce que c'est des réparations qui ne sont pas permises aux réparateurs agréés. Ça, c'est quand même... Il y a un petit côté mensonger là qui interpelle vraiment.
Ouais, c'est typiquement le genre de situation contre lequel vous élevez hein, chez iFixit.
Oui, tout à fait.
Bien sûr. Ouais. Mais c'est sans doute un peu grâce à vous qu'Apple a lâché du lest et autorise maintenant certains réparateurs non agréés à commander des pièces, ce qui avant était totalement impossible. Hein.
Oui, tout à fait. Ils ont très certainement cédé à une pression qui s'agrandit de jour en jour. Hein. Donc on voit vraiment quel intérêt pour ce qu'on appelle « right to repair », le droit à la réparation. C'est quand même quelque chose qui interpelle de plus en plus un public large, et donc je pense que Apple aussi, ils en sont à se poser des questions par rapport à ça. Je pense pas qu'ils vont abandonner tout à fait leur monopole et leur écosystème fermé, mais je pense que ils se sentent un peu obligés à tout au moins à faire un peu semblant.
Alors, c'est l'une des infos de la semaine, mine de rien. Apple arrête la fabrication du HomePod, mais le maintient en vente tant qu'il en reste dans les rayons. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter cette nouvelle, François et Ellie ? Est-ce la fin du HomePod ou est-ce l'annonce de l'arrivée imminente d'une V2 ?
À mon avis, c'est la fin du HomePod V1. Apple a clairement dit qu'il se concentrait sur le HomePod Mini. Je pense que le HomePod restera un superbe appareil, j'en ai à la maison, je me permets de le dire. Maintenant, le problème, c'est que c'est un produit de niche, c'est un produit qui vaut quand même très très cher. Il est agréable quand on en a deux, donc ça veut dire 640 € à sortir, et comparé peut-être à une barre de son avec des systèmes 5.1, etc., qui peuvent être dans les mêmes eaux, le HomePod a pas trouvé sa place, et donc Apple dit on arrête les frais, de toute façon ça sert à rien, on continue à le produire. Il y avait des news qui sortaient régulièrement comme quoi les gens qui recevaient des HomePod, c'était des modèles qui avaient été fabriqués il y a 6 mois, voire plus. Je pense vraiment que c'est un produit, je dirais pas que c'est un bide, parce qu'il a permis aussi de voir arriver le HomePod Mini, mais ça reste, pour moi c'est une déception qu'il l'arrête, parce que ça reste un bon produit, mais il aurait sans doute, à 100 € de moins, il serait mieux vendu, mais maintenant avec un HomePod Mini à 100 €, ciao, on ferme les chaînes de fabrication du HomePod classique.
Ellie, c'est un aveu d'échec ?
Ben, en tout cas, ça veut dire que Apple n'en a pas vendu assez pour rentabiliser et garder les chaînes de production. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas le premier produit qu'ils arrêtent comme ça, puisque rappelez-vous que l'iMac Pro s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça.
La semaine dernière.
En 8 jours, ça fait deux annonces.
Oui,
quand même.
Donc ça, c'est une nouvelle tendance qui est un peu bizarre. Et pour rebondir sur mon erreur de tout à l'heure, il y a un produit où on n'en a pas vendu un seul depuis 3 ans qui s'appelle le iPod, qui lui reste et qui est inamovible. Hein. Apple va jamais l'arrêter. Le premier qui en a vendu un est prié de nous écrire. On mettra sa photo avec un bouquet de fleurs et on ira se prosterner devant. Mais je sais pas, c'est incroyable.
Qu'est-ce qu'ils en ont vendu à une époque?
Oui, mais c'était il y a longtemps. C'était avant que les téléphones fassent la même chose en mieux pour des prix pas si lointains. Hein.
Bien sûr. Alors aux US, une nouveauté dans Maps qui montre désormais les centres de vaccination les plus proches, Ellie.
Oui, et ça montre la réactivité d'Apple quand le besoin se fait sentir. Et pour évidemment la Covid, c'est quelque chose de très important parce que en fait, c'est juste une mise à jour qui est arrivée et qui a rajouté dans Maps le centre de vaccination aux États-Unis pour l'instant. Hein. Mais c'est très pratique pour quelqu'un. Il y a maintenant évidemment la possibilité de se faire vacciner de plus en plus aux États-Unis. Ils ont beaucoup beaucoup de doses et beaucoup beaucoup de vaccins contrairement à nous. Et donc c'est pratique quand vous avez l'embarras du choix. Ben, vous regardez dans Maps et il vous dit le plus proche qui a des vaccins disponibles, etc. Donc c'est super pratique, vous cliquez, ben vous y allez. Hein. Donc je trouve ça très bien comme initiative.
Et puis alors, ben c'est peut-être l'info de la semaine, c'est que les taches roses ont disparu des Mac Mini M1. Par quel miracle?
Eh ben écoute, par une mise à jour logicielle. Apple avait dit... et on en parlera tout à l'heure justement parce que je pense que Thomas a dû entendre parler de ces mystérieuses taches qu'il y avait sur les Mac Mini M1. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Apple a sorti une mise à jour, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière, sauf qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans, qui était la 11.2.3. Eh bien, je vous avais parlé de ce client qui avait eu ces taches roses dans son Mac Mini qu'on avait constaté et on l'avait en observation. On avait essayé de le renvoyer chez Apple puisque nous, on n'arrivait pas à faire quoi que ce soit en réparation puisque les tests Apple nous disaient la machine marche. Nos yeux nous disaient...
On rappelle pour Thomas que c'était des taches roses à l'écran. Hein.
Oui, oui, à l'écran.
Tu connais cette histoire de taches roses, Thomas?
Non, je n'en avais pas encore entendu parler, en fait. C'est un peu comme le touch disease sur les téléphones où on a une barre grise comme ça.
Ben là, c'était un peu particulier parce que c'est uniquement sur le Mac Mini M1, uniquement lors d'une connexion par la prise HDMI et je pense lié au type de télévision ou de moniteur qu'on met en face parce que en 4K, ça n'arrivait quasiment jamais, voire jamais, mais en 1080p, oui, donc je pense que c'était lié à la résolution. Donc Apple, au départ, ils ont dit on examine le problème, puis après ils ont dit ouais, il semblerait qu'il y ait un souci, mais ça doit être logiciel, voici une petite démarche en 4 points à faire. En fait, grosso modo, il fallait resetter la résolution de l'écran à travers le tableau de bord, moniteur, et changer de résolution et revenir à la résolution, ce qui devait quelque part resetter le GPU du Mac Mini. Et puis après, ils ont dit ça va être corrigé par une mise à jour logicielle. Il y a eu une mise à jour logicielle, mais ils ont pas dit ce que ça corrigeait. Ils ont dit ça améliore les performances et corrige quelques problèmes, sans plus. Et lundi matin, je rallume la machine qui avait fait sa mise à jour et il n'y avait plus de taches roses. Et en tout cas, depuis, la machine est allumée, il n'y a plus de taches roses. Donc maintenant, les seules taches roses qui restent, c'est les éléphants que nous voyons après avoir bu quelques verres, mais en tout cas, ils ne sont plus à l'écran.
Bon, bah, écoute, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, alors, une nouvelle qui n'est pas si bonne que ça, je dirais entre défection et trahison. Alors, c'est pour rire, évidemment, que je le dis, mais vous vous souvenez, il avait été le visage pro-Apple des pubs « I'm a Mac, I'm a PC » dans les années 2006-2010. L'acteur Justin Long a sans doute pris un gros chèque de chez Intel pour dire tout le mal qu'il pense du Mac d'aujourd'hui et notamment des Mac M1 face à la nouvelle génération de PC portables à processeur Intel, évidemment, dans une campagne de pub sur YouTube qui est intitulée « Justin vous dit la vérité ». Il promet d'être une vraie personne qui fait un vrai comparatif entre Mac et PC. Et bizarrement, c'est toujours le PC qui gagne. Alors, en termes de flexibilité, il le compare au Yoga Lenovo dont l'écran est tactile. Pour le gaming, il dit que personne ne joue sur Mac de toute façon. Bon, on va rappeler qu'en 2017, Justin Long avait déjà vendu son âme à Huawei à la sortie du Mate 9. Bon allez, j'arrête de dire du mal. Et pour ça, rien de tel que de passer aux rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, et on commence par l'incertitude autour des AirPods 3, qui soutient l'incertitude autour de cette fameuse keynote potentielle du 23 mars, Ellie.
Oui, on avait vu les photos, on savait déjà quasiment tout de la forme, etc. Et puis, boum, toujours notre analyste préféré, Min-Chu Kuo, j'ai toujours du mal à...
Voilà,
a dit, finalement, les AirPods 3 n'arriveront pas au mois de mars, car il y a des problèmes d'approvisionnement. Ils arriveront probablement plus tard dans l'année, probablement d'ici le mois de juin. Donc du coup, il dit pas avril, hein. Lui, il dit, c'est pas qu'ils sont pas prêts, c'est que peut-être on n'arrive pas à en produire, Apple n'arrive pas à en produire suffisamment. Et donc, pas d'AirPods 3, comme c'était une des choses sur lesquelles on comptait, maintenant qu'on les avait vus en photo et tout, donc ben non.
Bon. Et alors toi, François, en termes d'annonce, toi, tu es plutôt calé sur Pâques.
Bah, on a vu des news comme quoi ça arriverait au mois d'avril.
Alors,
mais pas les AirPods.
Qui arriverait au mois d'avril?
Les iPads.
Les iPads.
Il n'y a que les ça iPad. Qui t'intéresse.
Et là, ouais, mais il n'y a que les iPads. Les iPads Pro avec le mini LED. Ouais. Il y a quelques news qui sont sorties comme quoi finalement ce serait à dispo à partir du mois d'avril. Mais comme je le disais tout à l'heure, je me tais.
Ouais. On n'en sait rien en fait. Hein. Ouais.
Il n'y a jamais eu de grosse annonce Apple. iPad Pro, c'est quand même un produit important au mois d'avril. Hein. Mais ils peuvent innover. Hein. On n'est pas à l'abri de.
L'année dernière, c'était pas arrivé au mois d'avril?
Je ne sais plus. On était confinés, tu sais.
Oui, c'est ça. On était cons surtout. On bon, Élie, soyons sérieux.
Oui.
Si je te dis Touch ID en plus de Face ID, est-ce que ça a un sens?
Oui, il y a eu des rumeurs concordantes comme quoi l'iPhone 13, hein, donc on parle de septembre, c'est pour ça que c'est une rumeur, aurait les deux dispositifs. Alors, on peut se dire, pourquoi pas, vu que c'est quand même embêtant cette histoire de virus et de masque, que peut-être qu'Apple se dit qu'on est parti pour un moment encore à devoir porter un masque d'une façon ou d'une autre, si le virus reprenait, admettons, à l'automne, hein, on va savoir. Pour l'instant, il est toujours là. Hein. Donc, le fait d'avoir Face ID, mais un capteur d'empreinte qui serait sous l'écran, il n'y aurait plus de bouton, bien entendu. Hein. Donc, cette technologie existe, hein, donc Apple pourrait l'utiliser, ben, donnerait deux façons différentes de s'authentifier avec son téléphone, ce qui est pas plus mal. Alors, on pourrait en rajouter trois tant qu'à faire et rajouter un bouton de mise en marche qui contiendrait Touch ID. Alors là, ça serait vraiment le délire. Tout le monde pourrait choisir comment s'authentifier, mais les deux, moi, je dis pourquoi pas.
Ouais. Thomas, Touch ID ou Face ID, lequel est ta préférence?
Ben, de nouveau, je suis toujours focalisé sur le même sujet. Je vois que toutes les composantes qui jouent un rôle ou l'autre dans l'identification sont alors concernées par des mesures supplémentaires qui rendent la réparation plus complexe. Donc on voit que dans l'iPhone 12, on ne peut plus échanger les caméras comme on pouvait le faire avec les téléphones d'avant. C'est potentiellement lié à cette fonction sécuritaire de la caméra. Et donc, plus de composantes sont impliquées dans cette identification, plus on aura donc des problèmes en tant que réparateur indépendant ou autoréparateur avec tout ça. Donc c'est toujours, c'est peut-être un peu un basso continuo, c'est peut-être pas très, enfin ça ne change pas, mais voilà, c'est ce qui nous intéresse toujours. Parce que nous pensons vraiment que c'est très problématique si ces produits-là ne sont pas assez réparables.
Oui. Élie ?
Ben, justement, pour rebondir là-dessus, c'est sûr que si le capteur de Touch ID fait maintenant partie de l'écran, ça veut dire que tous les écrans compatibles Apple, c'est fini. Parce que s'il faut changer l'écran, il faudra un écran Apple, parce que sinon, il n'y aura pas le capteur.
Tout à fait. Ou on aura de nouveau un Error 53 ou un problème semblable, ou peut-être on va changer l'écran, tout va fonctionner, puis il y aura une mise à jour, et puis l'appareil se transformera en brique. Donc c'est vraiment un gros souci. Ouais.
Bon. Allez, assez de fantasmes pour aujourd'hui. Eux, ils sont dans la réalité pure et dure de nos machines. Ce sont les magiciens d'iFixit. À tout de suite. iFixit.com. Qui n'est pas allé chercher un jour des infos sur la bonne manière de désosser un iPhone pour changer soi-même l'écran ou pour remplacer le bon vieux disque dur de son Mac par un SSD? Thomas Hobsommer, tu es donc porte-parole, spécialiste des questions de réparabilité au niveau européen pour iFixit. Merci vraiment d'être notre invité cette semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Alors, on va parler de cet indice de réparabilité qui vient de faire son apparition sur le site d'Apple en France dans un instant.
Et sur les nôtres, hein, n'oublie pas.
Et sur les vôtres aussi, c'est vrai, tout à fait. Élie, tu as raison de le préciser. Mais d'abord, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu au début de l'histoire d'iFixit ? Tu n'y étais pas, mais... Comment est-ce que cette aventure a commencé, Thomas ?
Donc, ça a commencé avec deux étudiants ingénieurs, Kyle Wins et Luke Souls, qui sont toujours, en fait, les directeurs gérants du groupe iFixit. Donc, ils étaient étudiants ingénieurs à Cal Polytech. Et Kyle avait laissé tomber son ordinateur, son iBook.
Il voulait la palourde, c'est ça.
Oui, c'est ça, la brique. Ouais. Et donc, il voulait évidemment tenter le coup de le réparer. Il avait d'ailleurs bossé dans un magasin d'ordinateurs, donc il savait que ce serait faisable. Il savait aussi que, en principe, il devrait y avoir un manuel de réparation. Et donc, il s'est dit, tout se trouve sur Internet, certainement aussi ce tutoriel officiel de réparation. Or, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, et il a découvert après que c'était parce que dès qu'une personne quelconque mettait en ligne un de ses guides de réparation officiels, il recevait immédiatement une lettre d'un huissier.
D'un avocat d'Apple, oui.
Tout à fait, avec des menaces d'avoir des amendes si on ne retirait pas immédiatement ce contenu. Et donc, ils ont su réparer en essayant, hein, à tâtons, trial and error. Ils ont réussi à réparer l'engin. Ils se sont dit, si ce guide de réparation n'est pas dispo, en fait, nous, on va le faire. Puisque maintenant on sait comment il faut le faire, donc ils ont fait tout un guide de réparation qu'ils avaient imprimé sur papier brillant et tout, dans l'idée de les vendre, en fait, sauf que personne n'était intéressé par ce tuto de réparation sur papier. Et après ils se sont dit tant le mettre en ligne. Et là il y a eu un succès fulgurant, donc il y avait vraiment beaucoup d'intérêt pour ces contenus-là en ligne. Et comme ils avaient des difficultés aussi à trouver des pièces, ils avaient en fait acheté un vieux ordinateur qu'ils avaient démonté pour en récupérer des pièces. Évidemment, il en restait. Donc, ils se sont dit, en fait, on peut vendre les pièces restantes. Et c'est comme ça qu'en forme embryonale est né iFixit. Et donc, d'abord, ils ont vendu des pièces détachées de leur chambre à l'UNIF, et puis de leur garage, et puis voilà. Maintenant d'une grande boîte aux USA et en Europe, et voilà.
Ouais. Tu dis une grande boîte, c'est quoi aux USA iFixit aujourd'hui ?
Oh, il faut compter une 120aine d'employés, je pense, et en Europe, ouais, 50, donc oui, c'est plus très petit.
Pas mal. Et alors, du coup, tu expliques que c'est parti d'un besoin, en fait, mais c'est devenu une vocation et presque une mission, la réparabilité.
Oui, tout à fait. Ça a parfois un côté presque religieux, on va dire.
Ouais.
C'est vrai. Donc, c'est une vraie mission de vouloir allonger la durée de vie des objets qui nous entourent. Puisque, évidemment, pour les fabriquer, on creuse la terre, on va miner des substances qui sont limitées, qu'il nous faudra en plus pour un futur durable, puisque, par exemple, si vous voulez fabriquer une turbine d'une éolienne, il vous faut ces précieux aimants terres rares. Donc, si on les met tous maintenant dans des vibreurs de téléphone qui après vont être jetés, il nous en manquera dans le futur. Donc, il y a vraiment un souci d'avoir des appareils qui duraient plus longtemps. Et donc, une des voies principales pour pouvoir le faire, c'est pouvoir les réparer, c'est évident.
Oui, il y a vraiment une notion de lutte contre le gaspillage aussi, hein, chez vous.
Tout à fait. Il y a une petite différence, je pense, dans la façon de voir, de cadrer les choses aux USA, ouais, et en Europe. Donc, aux USA, c'est très axé sur la notion de propriété. J'ai payé pour, je suis le propriétaire, j'ai le droit de faire avec tout ce que je veux. En Europe, on voit que les gens sont quand même nettement plus sensibles aux thèmes environnementaux. Et donc là, l'empreinte en CO2 et autres, c'est quand même une grande motivation pour notre public ici.
bien sûr. Du coup, le modèle, le business model d'iFixit, c'est quoi ? C'est d'attirer, c'est pas moche, hein, mais d'attirer les clients avec ces vidéos qui rendent service, qui expliquent comment faire, pour derrière vendre des outils de réparation, des mallettes, des kits comme celles dont parlait Ellie.
Oui, c'est pas faux. Donc les tutoriels sont tous gratuits, ils sont même open source, donc vous pouvez les partager comme vous voulez, à condition d'en mentionner les sources et évidemment de ne pas faire un profit dessus. Mais donc comme c'est gratos, ben évidemment ça ne nous fait pas d'argent, et donc les revenus, tous les revenus viennent de la vente donc de pièces détachées et d'outillage spécifique, hein, comme le fameux tournevis pantalobe qui a été inventé à l'époque pour que les gens ne puissent pas ouvrir leur téléphone. Et ben nous on considère ça un acte de libération, de fournir ces tournevis aux consommateurs, quoi.
Ouais, on va rappeler que c'était les deux vis qui tenaient le boîtier de l'iPhone de part et d'autre du connecteur 30 broches.
Hein, tout à fait. Et donc, on est passé d'une vis Philips qui était vraiment tout à fait commune. Et voilà, vous pouvez trouver le tournevis partout. Et donc, à mi-chemin dans l'iPhone 4, ils ont changé ça. Il y a même des gens qui ont envoyé un téléphone avec des vis Philips et qui l'ont reçu après la réparation avec des vis Pantalobe. Donc, c'était vraiment à mi-chemin qu'ils ont changé de cap et qu'ils ont décidé de ne plus admettre que les gens ouvrent le téléphone. Et donc, d'un téléphone pour lequel il fallait à l'époque un seul tournevis, on est maintenant déjà à trois. Donc, il y a des Pantalobe, il y a toujours des Philips, il y a aussi des Tree Points, donc des triangulaires, et il y a même un tournevis spécial, on l'appelle le Standoff. Donc, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, même juste au niveau des empreintes de vis.
Ouais. Il me semble que avec vos kits, vous vendiez aussi justement les vis Philips qui permettaient de remplacer les...
Tout à fait. Donc, on avait un kit, on appelait ça le Liberation Kit. Donc, c'était tournevis et les deux vis pour que votre téléphone en revienne à l'ancien état avec les vis communes. Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Alors, pendant plus de 10 ans, iFixit, c'était US only.
Oui, tout à fait.
Et puis, il y a eu cette arrivée en Europe. Ça a été une vraie grosse étape, parce que 50 salariés maintenant, c'est pas rien.
Oui, tout à fait, et c'est fait aussi à l'initiative de deux personnes. Donc en fait, la même histoire du début d'iFixit aux États-Unis est un peu miroitée par son origine en Europe. Donc il y avait aussi deux gens, ils s'appelaient tous les deux Matthias Mayer et Matthias Hüsken, deux Allemands. Qui se sont dit aussi, mince, en fait, pourquoi est-ce que ça n'existe pas en Europe ? Ceux qui veulent réparer des trucs en Europe, ils doivent se faire envoyer leur colis depuis les États-Unis. C'est pas un bon modèle. Et donc, en fait, les deux ont approché les fondateurs d'iFixit aux USA. Ils ont dit, écoutez, nous, on serait partant pour fonder une succursale en Europe pour que vous puissiez mieux atteindre le public ici. Et donc, ils sont aussi, en quelque sorte, auto-déclarés pour commencer cette histoire-là. Et ça, c'était donc en 2013. Et puis, au début, c'était une toute petite équipe. C'était 3 personnes aussi, ou 4 personnes dans un bureau. Et puis, ça a grandi.
Ouais. Thomas, je voudrais qu'on dise un mot de ce que vous avez fait depuis le début de la pandémie, où vous avez commencé à recenser, en fait, tous les modes d'emploi des matériels médicaux indispensables dans les hôpitaux, dans les cliniques.
Tout à fait. Donc, on a constaté là aussi que le système restreint, très fermé, qu'appliquaient beaucoup de fabricants, mettait vraiment des gens dans des problèmes. Donc, des vies en dépendaient. Parfois, les techniciens agréés ne pouvaient pas accéder à l'hôpital pour des raisons de sécurité ou parce qu'il était tombé malade. Et donc, il y avait vraiment des produits, donc des respirateurs qui étaient vraiment essentiels pour sauver des vies et qui ne pouvaient pas être réparés par des barrières tout à fait artificielles. Et donc là, on s'est vraiment efforcé pour pouvoir ouvrir en fait ces cadenas. Il faut dire aussi qu'il y avait déjà un projet en germe. Il y avait une personne Je suis vraiment navré, mais je me souviens pas de son nom, donc je sais pas lui faire justice maintenant. Mais il y avait une personne, en fait, qui était ici, issue du travail médical dans des pays en voie de développement. Et donc, il y avait déjà un listing de manuels de réparation qui était donc fort utilisé là-bas parce que, évidemment, en Afrique, c'est encore mille fois plus compliqué d'avoir accès à un réparateur agréé. Et donc, on a pris ça, en fait, et on a essayé d'élaborer ça. Et en très peu de temps, effectivement, c'est devenu une base de connaissances très, très étendue sur les appareils médicaux.
Bon, c'est formidable. On va en venir à l'actualité. En France, puisque c'est une exception française à l'échelle mondiale, je crois, pour l'instant, ces indices de réparabilité prévus par la loi française relative à l'économie circulaire qui sont apparus sur le site d'Apple et donc des APR, et n'est-ce pas, Ellie ? Il y a une dizaine de jours.
Oui, mais ça a été super rapide. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on change tous nos affichages justement pour respecter la loi, parce qu'en cas de contrôle, sinon, on risquait une amende. Donc, il a fallu qu'on s'y mette tout de suite. C'était une urgence, une priorité totale, mais on l'a fait.
Et ouais. Apple déjà, c'était l'un des derniers. Donc, il y avait d'autres marques qui l'avaient un peu mieux anticipé, mieux préparé, je pense. Ceci étant dit, effectivement, la loi est entrée en vigueur le 1er janvier. Mais en fait, il y a un accord tacite qui aurait pas de poursuite pendant la première année. Donc voilà, c'est pas vraiment en ce moment-ci le cas d'éviter des amendes. Mais évidemment, je pense qu'Apple aussi, au niveau commercial, ne peut pas se permettre de ne pas jouer le jeu quand tous les autres le font.
Le truc cocasse, c'est que par exemple, on a reçu des posters pour tous nos produits qu'on met dans les vitrines à l'extérieur du magasin. Et quelques jours après, on a reçu les mêmes posters, mais avec indice de réparabilité. Donc, c'est joué vraiment à quelques jours.
Oui.
Thomas, bon, donc on comprend qu'Apple respecte la loi, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cet indice de réparabilité... celui qui est affiché sur le site d'Apple, il est calculé par Apple, on est d'accord?
Oui, mais à base de critères qui sont vraiment objectifs et transparents. Je pense que les scores qui s'attribuent eux-mêmes sont vraiment corrects. Et d'ailleurs, pour les smartphones, par exemple, si vous regardez sur indice-réparabilité.fr, Apple est le seul fabricant à afficher des téléphones avec un score de moins de 5 sur 10. Donc, ils sont vraiment obligés à s'accorder de mauvaises notes et ils le font.
C'est ça, wow. Ils se donnent des coups de fouet eux-mêmes. Par exemple, je suis sur la fiche de l'iPhone 12 Pro. Voilà, le calcul a été fait le 6 novembre 2020. Donc, vous avez un tableau avec le critère 1, la documentation, le critère 2, la démontabilité, l'accès, les outils, les fixations, le critère 3, la disponibilité des pièces détachées, le critère 4, le prix des pièces détachées, et le critère 5, critère spécifique. Informations sur la nature des mises à jour, etc. Ça donne une note, un indice sur 10. Hein.
Tout à fait.
6 sur 10 pour l'iPhone 12 Pro. Et toutes les notes sont disponibles sur le site d'Apple, sur une page qui est dédiée et qui regroupe tous les iPhones, de l'iPhone 7 à l'iPhone 12, et les Mac, avec les MacBook Pro, MacBook Air. Il n'y a pas de Mac de bureau pour l'instant, mais bon, j'imagine que c'est work in progress.
En fait, il n'y a que cinq produits qui sont concernés maintenant par l'indice de réparabilité. Et donc, au niveau d'électronique, c'est les téléphones portables et les ordinateurs portables et pas les ordinateurs fixes. Il y a aussi les lave-linges, les tondeuses à gazon. Mais donc, il y a cinq produits phares, dont deux électroniques, en fait, qui sont concernés en ce moment-ci.
D'accord. Donc, Ce que tu dis, Thomas, c'est que les indices calculés par Apple sont objectifs et pertinents.
Oui, je pense vraiment. Et donc, les raisons pour lesquelles Apple score pas très bien sont très claires. C'est par exemple, donc c'est entre autres la disponibilité de pièces détachées, puisqu'il n'y a qu'une offre assez limitée de pièces détachées. C'est notamment aussi le prix des pièces détachées. Et c'est donc le manque de transparence par rapport au tutoriel de réparation. Et on voit par exemple que d'autres fabricants ont décidé de vraiment ouvrir leur écosystème. Samsung, par exemple, auparavant, il n'offrait que un manuel de réparation destiné aux techniciens. Mais ils ont décidé d'aussi offrir maintenant un manuel de réparation destiné à l'utilisateur. Ils font ça depuis janvier et uniquement en français. Donc, c'est clairement lié à l'indice français. Ah, oui. Mais donc, Apple a décidé de suivre une autre route et donc de se garder au moins en ce moment-ci à leur écosystème fermé et donc à payer le prix en termes d'un mauvais score. Ouais.
Mais je crois qu'il y a une raison à ça. C'est que ce que tu viens de dire, et c'est très intéressant sur Samsung, je pense qu'à partir du moment où un particulier, puisque là on parle de grand public, se lance dans une réparation comme ça, s'il casse le produit, c'est sa responsabilité. Donc après, il n'y a plus qu'à racheter un autre téléphone. Apple, ils sont extrêmement soucieux de la satisfaction client. Donc s'ils considèrent qu'un produit est compliqué à dépanner, et je pense qu'un iPhone, parce que je vois mes techniciens le faire, moi personnellement je pourrais pas le faire, hein. La façon dont il faut, quand on commence à ouvrir un des derniers iPhones, on l'ouvre de 2 mm et puis il faut y retirer une petite nappe qui est minuscule, parce que si on la retire pas et qu'on continue à ouvrir le téléphone, elle va casser, et des choses comme ça. Si quelqu'un essaye de réparer le téléphone et qu'il a un problème, il va appeler le service client Apple en disant « C'est quoi votre merde? Le truc, il marche pas, etc. Mais vous l'avez ouvert vous-même. Mais oui, mais j'avais un manuel. » Donc, je pense qu'Apple, il marche sur des œufs là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur certains produits, et en tout cas, au début, à chaque fois qu'il y a des nouveaux iPhones, un, ils nous laissent pas les réparer jusqu'à un certain temps. Donc, au début, c'est renvoi systématique chez Apple et c'est traité très, très vite. Et ensuite, chacun de nos techniciens, dès qu'il y a un nouveau produit Apple qui sort, il y a un examen qui s'appelle Atlas, qui est un examen interne. Et tant que chaque personne n'a pas passé cet examen avec des quiz, il faut qu'ils suivent des vidéos, des formations, etc., il n'est pas autorisé à commander une pièce. C'est-à-dire que le technicien d'à côté qui a suivi la formation peut le faire et celui qui est juste à côté peut pas le faire. Si Apple considère qu'il n'est pas formé et qu'il a suivi ses vidéos, ses guides et qu'il a répondu à toutes les questions. Donc, ils sont très, très, très soucieux de cette qualité. Alors, je défends un peu notre paroisse parce que nous, évidemment, on subit ces contraintes et que pour être centre de réparation agréé Apple, centre de service agréé Apple, c'est des examens tous les ans de certification, de recertification, c'est suivre des procédures contraignantes, c'est de respecter effectivement tous les diktats qu'il peut y avoir. De notre côté, ça garantit au client final le fait que la réparation a été faite comme elle aurait été faite chez Apple.
Oui, je ne veux pas nier qu'un souci de qualité peut jouer un rôle dans ce type de décision. Hein. Toujours est-il que cette décision-là, elle est donc prise par Apple uniquement et donc l'utilisateur n'a pas le choix d'entrer ou non dans ce système très restreint, protecteur probablement aussi de la qualité. Il n'a pas le choix, tandis que dans d'autres situations, le client peut se dire je me sens pas capable de le faire moi-même, je vais le donner à un réparateur agréé, ou il peut tenter le coup. Je pense aussi qu'au niveau des risques de désassemblage, il y a des moyens de pallier ces risques. Donc, par exemple, pour l'ouverture de l'écran, c'est vrai, il faut l'ouvrir d'une distance minimale, sinon on atteint la nappe. Donc, nous, par exemple, nous offrons une pince avec des ventouses qui va vous permettre de juste ouvrir l'écran de la distance qu'il faut pour le faire lâcher. Si même avec des mesures pareilles, ça reste tellement risqué d'ouvrir le téléphone, on peut aussi se poser des questions par rapport à la conception et si peut-être la nappe n'aurait pas dû être un peu plus longue ou donc je trouve aussi que la logique est quand même un peu boiteuse de se dire oui, nos produits sont tellement difficiles à réparer que nous sommes les seuls à savoir le faire, peut-être alors qu'il faut produire des produits qui sont plus faciles à réparer.
c'est tout à fait juste, Thomas. Petite question aussi sur cette exception française. Est-ce qu'elle intéresse nos amis américains, par exemple? Est-ce que cet indice, à ton avis, pourrait faire tache d'huile et se retrouver bientôt sur les sites d'autres pays que la France?
Il y a vraiment eu un intérêt énorme pour cet indice, aussi aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui a fait le tour du monde Et donc, il y a eu des blogs et des articles dans plein de magazines techniques vraiment, vraiment répartis sur le globe. Donc oui, il y a un grand intérêt. Est-ce que ça veut dire que le principe même de l'indice va se propager tellement vite? Ça, c'est autre chose. Apple, évidemment, ils ont un monde produit très homogène avec très peu de produits. Il y a d'autres marques avec une gamme beaucoup plus hétérogène et donc avec d'autres produits déjà qui seraient disponibles aux USA qu'en Europe, etc. Donc je pense que c'est d'abord une chose qui va s'étendre en Europe. Il y a bien sûr donc des conversations politiques qui se font hein, sur la question de savoir est-ce qu'on va appliquer un principe pareil au niveau européen. Et donc je pense que ça, ce sera la première étape. Et puis après, le reste du monde.
Historiquement, Thomas, quel regard tu portes sur la stratégie d'Apple en termes de réparabilité et sa philosophie? Est-ce que ça évolue et dans quel sens?
C'est compliqué parce que ça dépend un peu d'un produit à l'autre. Je dirais pour les téléphones qu'ils sont quand même généralement pas mal pensé en termes de réparation, c'est-à-dire que par exemple les deux premières composantes que vous atteignez en ouvrant le téléphone, c'est bien l'écran et la batterie, et ce sont les deux composantes qu'on doit changer le plus souvent. Donc de ce point de vue-là, leurs produits sont bien conçus, tandis que d'autres fabricants vont construire en fait tout le téléphone sur le revers de l'écran, et donc ça veut dire que l'écran serait la dernière composante que vous atteignez. Mais par exemple au niveau de leurs ordinateurs portables, là on voit quand même que depuis la génération, je vais dire 2013, là on avait encore des MacBooks qu'on pouvait ouvrir juste en enlevant les vis et on pouvait échanger la batterie et les disques durs en c'était une affaire d'une demi-heure. Et là, avec les derniers modèles, avec toute la colle, avec par exemple aussi le clavier qui est attaché au boîtier avec des rivets. Donc, si vous devez changer le clavier, il faut changer tout le boîtier. Ça, oui. Pour moi, c'est vraiment la folie. Et donc là, on voit une évolution qui n'est pas du tout positive. Mais Ellie pourra probablement en dire tout autant que moi, sinon plus.
Bah, Apple a dû le regretter avec le clavier papillon parce qu'ils en ont tellement changé. À leurs frais, qu'ils ont changé beaucoup de cartes mères pour rien.
Aussi. Oui, tout à fait.
Il fallait changer tout le top case, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... C'est pour Apple, ça coûte cher hein, quand c'est sous garantie. Hein.
Et donc là, ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied, mais je ne sais pas s'ils en ont tiré les leçons.
Bah, ils sont un peu têtus sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur les mémoires, au début, il était extrêmement facile de changer la mémoire d'un portable ou d'un Mac mini, etc. Puis, ils se sont mis à les souder. Donc déjà, c'était compliqué parce que un client achète une machine en 4 gigas, il se rend compte qu'il lui en faut 8. Eh ben, sur certaines machines, c'est juste pas possible. Parce que dessouder des mémoires, c'est pas simple. Et puis, ils sont arrivés au truc ultime. Dans les machines M1, la mémoire fait partie du processeur. Donc là, c'est fini. Hein. Il faut vraiment choisir sa mémoire dès le départ parce qu'après, c'est mort. Hein. Donc, Apple n'a jamais changé un processeur en 40 ans. Hein. Jamais.
Bon, et puis Thomas, vous êtes partie prenante du mouvement européen pour le droit à la réparation. Alors sur le site, on peut lire « Nous sommes des individus, nous sommes des réparateurs, nous sommes des activistes pour l'environnement et avant tout, nous sommes une communauté ». C'est quoi l'objectif de ce mouvement européen, Thomas ?
Ben, c'est vraiment d'aller démontrer qu'il y a un soutien pour des mesures favorisant la réparabilité, pour que les politiciens aient le courage en fait d'appliquer ou d'inventer et puis d'appliquer ce genre de mesures. Donc on voit de plus en plus que le public est vraiment preneur de ça, mais évidemment dans tout le processus de décision, la voix de l'industrie pèse très lourd et donc notre but c'est d'avoir une autre voix pour équilibrer ces voix de l'industrie au niveau des preneurs de décision au niveau européen.
Bon, merci beaucoup Thomas Hobsommer, iFixit Europe, d'avoir été notre invité cette semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'était passionnant et très sympa de te rencontrer et d'échanger avec toi sur ces sujets d'actu et de fond.
Eh bien, bien volontiers, peut-être à une prochaine.
À une prochaine fois. Salut Kyle Wentz. Pour nous, le fondateur d'iFixit.
Je ne manquerai pas.
On serait très heureux de l'accueillir dans iWeek.
Oui, mais son français, il est un peu...
Eh ben, en anglais. On l'accueillera en anglais, avec grand plaisir.
À mon avis, ce serait possible.
Ah, génial. On en reparle très vite. Salut, Thomas, et à bientôt dans iWeek.
Bonne soirée à tous.
Les mises à jour de la semaine. Bon, ça va pas être long, il n'y en a qu'une. Et encore, c'est une bêta.
Oui.
Mais
la particularité, c'est que pour une fois, on a une analyse complète des nouveautés. Alors, la plupart, on en a parlé un peu, mais il y en a quelques-unes dont on n'avait pas parlé, qui sont quand même dans cette mise à jour qui va bientôt arriver. Hein. On est déjà en bêta 4.
On parle de quel OS ?
iOS uniquement.
Ouais. C'est la fameuse 14.5. C'est là où il y a le plus de nouveautés. Donc, c'est la fameuse version 14.5 qui va bientôt arriver.
Oui, qui est en bêta 4, qu'on pensait arriver avec les nouveaux iPad Pro, mais du coup, elle va bientôt arriver ou pas.
Et c'est encore possible.
Mais c'est encore possible, on y croit. Il faut bien qu'on y croit. Hein.
Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?
Alors, bah, je vous résume un peu, enfin, un truc rapide mais exhaustif. La première chose de la 14.5, vous le savez tous, c'est le fait qu'on déverrouille l'iPhone quand on porte un masque avec l'Apple Watch. Bon, très bien. Il y a eu des petites précisions avec des copies d'écran qui montrent ce qui se passe. Et en fait, l'Apple Watch vous dit « J'ai déverrouillé votre iPhone avec l'Apple Watch et il y a un petit bouton pour le reverrouiller. » Donc, c'est pratique. Donc, on peut le reverrouiller aussi avec l'Apple Watch.
Et ça marche très bien.
L'autre chose qui est très sympa, c'est que maintenant, ça y est, enfin... Lorsqu'on a deux SIM, donc une SIM et une eSIM, les deux supportent la 5G. Et donc, jusqu'à présent, une des deux marchait en 5G, l'autre non. Donc, du coup, c'est bien que les deux puissent fonctionner en 5G. Donc, ça, c'est bien aussi. Alors, Apple Fitness, maintenant, fonctionne en AirPlay 2. Donc, en fait, on peut démarrer, les abonnés à Apple Fitness Plus peuvent démarrer un exercice sur un iPhone ou un iPad et avoir un écho sur, par exemple, une Smart TV, par exemple. Donc, avoir le contenu et le déroulé donc d'Apple Fitness Plus sur la télé ou sur une box. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Assez rapidement aussi, maintenant, ça supporte les contrôleurs d'une PlayStation 5. Ça supportait déjà la Xbox Series X. Donc, maintenant, la PlayStation 5 est supportée officiellement donc pour les jeux Apple Arcade et autres. Donc, ça, c'est plutôt bien. On avait parlé de cette fonction un peu Waze-like qui permet de signaler un accident ou un radar ou une difficulté directement dans Maps. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Il y a une papardelle de nouveaux emojis qui sont arrivés, dont le AirPod Max préféré de Jean-Christophe, mais aussi la petite seringue. Oui, oui, c'est un emoji, la petite seringue Covid.
On en avait parlé, oui.
Donc, on en avait parlé, mais ils ont enlevé le sang hein, quand même. Hein. Voilà. Rappelez-vous, on en avait parlé.
Oui, c'est ça.
Le Find My, il y a cette nouvelle possibilité de rajouter des items genre comment ça s'appelle déjà ? AirTags
hein,
on ne sait jamais. Hein. Alors, des petites choses nouvelles sympas aussi, c'est que maintenant, quand on choisit donc la source préférée pour streamer du contenu à utiliser avec Siri, hein, donc c'est directement dans les réglages de Siri, on peut le dire dans la 14.5 bêta 4 qu'on veut streamer directement à partir de Spotify par exemple ou de autre chose, mais en tout cas Spotify on peut, ça va être en lien avec autre chose dont on va parler après, ce qui veut dire que si on dit Siri fais-moi écouter de la musique et qu'on a choisi Spotify, ben il va aller choisir directement dans Spotify et non pas dans Apple Music. Donc pour certains, on attendait ça depuis des mois, voire des années. Donc, pouvoir utiliser Siri avec Spotify, c'est quand même très bien. Bon, évidemment, mon Siri s'est mis en marche.
Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone.
Mais bien entendu.
Je ne vois aucune app correspondre.
Tais-toi donc.
Mais c'est ma faute.
Autre chose, mon Eli.
Oui. Alors, on a parlé des trackers d'activité qui permettent de dire app par app si on autorise ou pas à traquer l'activité. Et puis, il y a des petits réglages pour les alertes d'urgence. Donc qui sont maintenant plus visibles, et puis d'autres petites choses, hein, donc mais il va falloir qu'on fasse carrément un petit manuel de parce qu'il y en a plein d'autres, mais les principales c'est celle-là. Voilà, donc ça de plus en plus une version indispensable.
Bon, c'est une bêta, donc disponible uniquement pour les développeurs. Et si vous y avez accès, on vous conseille évidemment de ne pas l'installer sur votre iPhone principal, mais sur un iPhone secondaire sur lequel vous ne risquez rien. Allez, dans un instant, on va s'asseoir autour de la table, à bonne distance évidemment réglementaire, des lits pour le fameux dîner. À tout de suite.
Eh oui.
Miam miam, c'est l'heure de passer à table, Ellie. Allez, on attaque direct avec l'entrée.
Oui, alors, bon, la petite entrée rapide, hein, parce qu'on n'a plus de coup de gueule de la semaine et je démarre les entrées, comme ça après on peut digérer pendant le repas. C'est quelque chose qui m'a un peu énervé cette semaine. Et qui concerne les APR, hein, donc mes confrères, j'espère bientôt pourront réagir avec nous à ce genre d'article, mais je te laisse en parler après. Vous savez qu'Apple a tendance à ne pas trop se rappeler du passé et des gens qui ont contribué au succès d'Apple, etc., et ou à la fidélité des gens, ou à la fidélité des collaborateurs, que ce soit chez Apple ou que ce soit chez nous. Et donc, c'est en fait cette cancel culture wo-californienne, comme je l'appelle maintenant, qui a tendance un tout petit peu à supprimer le passé. Je sais pas, ils veulent revisiter même la date de fondation des États-Unis. Ça les amuse beaucoup, donc de changer des trucs comme ça. Et donc, pourquoi j'ai dit tout ça? Je vais faire court. C'est parce que vous savez que on en a déjà discuté ici. Nos commerciaux et nos techniciens doivent subir des formations toutes les ans complètes et toutes les mois pour d'autres. Eh bien, Apple a décidé là récemment qui mettait à zéro les compteurs et que donc toute personne travaillant avec Apple, donc tout revendeur Apple ou APR, démarre à zéro comme s'il n'avait jamais vu un Mac de sa vie. Et donc, il nous oblige, hein, c'est contractuel, à assister à des formations en ligne qui s'appellent découverte de l'écosystème Apple, dans lesquelles ils nous disent Apple est une société qui fabrique des téléphones, des ordinateurs.
Mais c'est ridicule.
Mais j'ai appelé et j'ai dit, mais OK, quand on a un nouveau collaborateur, je comprends, mais moi, et ils m'ont dit, toi aussi. Je dis, mais moi, ça fait 40 ans, vous voulez que je fasse le cours? Ils m'ont dit, non, tu es obligé de le suivre et on notera ta présence et ta participation et c'est contractuel, tu ne peux pas faire autrement. Je dis, mais vous n'allez pas m'expliquer ce qu'est Apple à moi? Si. Bon, l'écosystème aussi? Oui.
Non, mais là, c'est un bug, c'est pas possible.
Non, je t'assure. Et donc, les bras m'en sont tombés. Donc, parce qu'en plus, on va perdre deux séances entières à écouter quelqu'un nous expliquer ce que c'est Apple. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, on va le faire, hein, on va le faire. Mais je me demande. Parce qu'en fait, quand on suit, on a un cursus interne qui s'appelle SEED. Et donc, les gens atteignent certains niveaux. Il y a certains qui sont à niveau 50, 60, qui ont, je sais pas, 10 000 points d'expérience parce qu'ils ont suivi ces formations-là. Et Apple, sans nous consulter, sans nous demander notre avis, remet les compteurs à zéro. C'est comme si on n'avait jamais vu de notre vie un produit Apple ou Apple. Donc, on est à zéro. Donc, on recommence la formation iPhone, la formation iPad, la formation Apple Watch, la formation de chacun des... Et donc, je veux dire, on en a pour des mois de cours d'hiver. Donc, c'est juste
j'ose
dingue.
J'ose croire que ça va s'arranger, ça me semble invraisemblable.
Non, hélas.
Bon, tu nous tiendras au courant.
Ouais.
Bon, ça t'a pas coupé l'appétit, j'espère.
Non, mais quoi que tu vas voir, hein, mon plat de résistance. François a eu la gentillesse de me faire parvenir un document qui me permet d'étayer ça. J'ai appelé ça « Je suis spotifié ». Donc, comme stupéfait, hein, je suis spotifié. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous savez que j'ai beaucoup défendu Spotify, vous le savez, hein, et que j'aime beaucoup toujours cette plateforme. Mais on a trouvé un petit article qui explique que Spotify, ils ne sont pas si gentils que ça. Hein, donc, qu'en particulier, ils ne mettent pas beaucoup de ressources sur la plateforme Apple, qui est quand même une des plateformes les plus importantes, j'espère, pour eux. Et on s'est rendu compte, en particulier par exemple, que sur les Mac M1, ben Spotify et l'appli n'est pas du tout optimisée M1 et qu'en plus, il n'y a même pas de développement en cours. Donc, c'est un peu inquiétant. Alors, on peut quand même l'utiliser à travers Safari, mais quand même, ils le font sur des plateformes concurrentes. C'est un peu incompréhensible que des gens qui sont quand même très importants, qui ont des millions d'utilisateurs, disent Spotify sur M1, non. Hein. Pourquoi faire ? Enfin, peut-être un jour, c'est pas une priorité. Donc, du coup, ça m'a vraiment un peu énervé. Et alors, du coup, je me suis dit, on va quand même feinter le truc.
Faut pas t'énerver, je crois, en ce moment.
Profitant que j'avais un petit Mac M1 sous le coude, où j'étais en train de tester mes taches roses, justement, j'ai pris...
Ça fait un peu bizarre, dit comme ça, Élie. Hein.
Oui, c'est vrai. Je sais plus, mais j'improvise.
Tu sais, on en a mis en quarantaine pour moins que ça, hein, tu sais. Hein.
C'est vrai. J'ai pas été sage. Et du coup... j'ai repris mon tuto dont on avait parlé il y a quelques émissions pour dire comment, parce que je me suis dit je suis plus malin, donc je vais prendre l'application iOS Spotify qui elle normalement est à jour pour les dernières versions ARM et qui donc du coup va fonctionner merveilleusement bien sur une machine M1 et en utilisant, je sais pas si vous vous rappelez, un petit outil qui permet d'importer l'application depuis son compte iTunes et ensuite la faire fonctionner sur le bureau. Donc je l'ai fait, ça a marché très bien. Donc j'ai double-cliqué dessus. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, c'est pas des super bons élèves. Parce que alors, l'appli démarre et je joue de la musique, il n'y a pas de problème. Par contre, ils n'ont pas redimensionné l'écran, c'est-à-dire que quand vous mettez ça sur un grand écran, sur votre Mac M1, vous avez certes des playlists, mais il n'y a pas la barre de défilement. Vous avez certes des icônes, mais elles sont regroupées comme si on avait un écran d'iPhone, et il y a des grands vides autour. Donc, je veux dire, ça marche, mais c'est pas beau. C'est pas beau parce que ils ne se sont pas posé la question si Spotify pouvait fonctionner sur un écran autre qu'un iPhone ou un iPad, probablement. Quoique l'iPad, je me pose des questions, parce qu'il y a quand même, si on le met en mode paysage, ça ressemble quand même à un écran d'ordinateur. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça très décevant. Alors, ça marche. Et en lisant cet article que François m'a envoyé gentiment, en fait, j'ai compris que Spotify Mac avait été développé sur Chromium. Donc, ok, hein. Why not? Mais bon, ils n'auraient pas pu faire un truc en Swift. Il y a pourtant des cours, hein. Donc, je sais pas. J'ai vraiment été un peu déçu. Donc, je voulais en parler parce que j'avais pas trop l'habitude de ce genre de choses. Je pensais qu'ils étaient plus réactifs que ça.
Ça va forcément évoluer.
Espérons. Mais en tout cas, il n'est pas noté comme développement en cours, hein. Ouais. Mais
bon, allez, une petite douceur pour finir.
Yes, je vais vous faire rêver. Donc, j'ai appelé ça un petit dessert glacé, en attendant l'été, hein, en espérant que d'ici là, on aura le droit de manger des glaces. Et en parlant de glace, c'est parce que je vais évidemment vous parler et vous reparler des Apple Glass. Que vous savez tous que les Apple Glass, c'est mon sujet de prédilection tant qu'elles ne sortiront pas. Donc, du coup, on risque d'en parler un petit moment. Et donc, pourquoi ça ? Parce qu'Apple a déposé, toujours chez Patently Apple, que nous suivons avec grand intérêt presque tous les jours, brevet qui lui a été accordé.
Non, ils ont déposé à l'office des dépôts, à l'office des brevets. Patently Apple.
Non, Patently Apple, évidemment, raconte. Mais vous voyez, j'étais perturbé par les trucs.
Oui.
Patently Apple reprend ce qu'Apple a déposé, évidemment, à l'Office des brevets. C'est un site web. Hein, donc, je vais me faire tuer par les auditeurs, je le sens. Hein. J'en vois déjà deux. Tu verras. Tu verras. Bon, donc, Apple a déposé un brevet qui. Et c'est très intéressant parce que c'est pour de la réalité augmentée, voire de la réalité virtuelle, et donc pour un système qui permettrait de suivre l'œil humain et d'enregistrer ce que vous êtes en train de regarder. Et ça, c'est très intéressant parce que imaginez que qu'on parle de lunettes de réalité augmentée. Ben, ça voudrait dire, un, qu'elles ont une caméra, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas sûr du tout, parce que Apple s'était un tout petit peu démarqué des Google Glass en disant, oh, nous, on ne cherche pas à prendre des photos en douce ou à enregistrer, mais pourtant, dans le brevet, ils se réservent la possibilité de le faire. Et ce qui voudrait dire, en plus, c'est plus sournois, parce que là, du coup, vous n'êtes même pas obligé de tourner la tête pour que la caméra enregistre, c'est-à-dire que vous regardez quelque part avec vos yeux, vous baissez un peu les yeux, et cette caméra qui presque pourrait bouger, en fait, hein, puisque c'est ce qu'ils disent, enregistrerait ce que vous êtes en train de regarder en douce. Ça ouvre plein de possibilités dont je ne peux pas parler ici, car c'est une émission grand public. Donc, mais je trouvais ça intéressant comme idée. En réalité virtuelle, évidemment, ça veut dire que si vous êtes en train de jouer à un jeu où vous êtes en immersion profonde, le fait de regarder quelque part va faire que tout le jeu va basculer en temps réel sur ce que vous êtes en train de regarder, surtout en open world, etc. Ce qui ouvre aussi pas mal de possibilités. Voilà.
Bon, bah écoute, merci Ali pour ce bon repas. Moi, je dis que c'est l'heure du petit Dijon.
Allez.
Et du tuto audio. Le tuto audio, cette invention made in iWeek que le monde entier nous envie. Cette semaine, comment créer vos propres GIFs animés sur votre iPhone ou votre iPad? En fait, c'est super simple. Alors, c'est possible en natif, c'est-à-dire sans app particulière depuis iOS 11, et l'arrivée des live photos, vous savez, ces photos qui s'animent pendant 1 à 2 secondes si vous ne désactivez pas, bien sûr, l'icône faite de cercles concentriques sur l'interface de l'appareil photo de votre iPhone ou votre iPad. Tous les iPhones depuis le 6S et le SE peuvent prendre des live photos. Alors ces live photos sont toutes regroupées automatiquement dans un album du même nom, c'est pratique pour les retrouver. Et donc, la première étape, c'est d'ouvrir l'album Live Photo. Deuxième étape, choisissez la photo animée que vous voulez transformer en GIF animé. Affichez-la pleine balle sur votre écran. Vous ne le savez peut-être pas, mais en dessous de l'image, il y a ce qu'Apple appelle des effets. Alors, pour les visualiser, là encore, c'est très simple. Posez un doigt sur l'image et poussez-la vers le haut. En faisant ce geste, vous allez scroller vers le bas et ainsi révéler ce fameux bandeau avec ses fameux effets. La troisième étape, elle est simple, elle consiste à choisir entre deux de ces effets, boucle ou rebond, sachant que rebond joue l'animation en avant puis en arrière, alors que boucle reprend systématiquement au début. Dès que vous avez cliqué sur l'un de ces deux effets, votre GIF animé est créé et il rejoint l'album qui s'appelle Animation. Alors pour utiliser ce GIF animé, eh bien il suffit, après l'avoir choisi dans l'album animation, de cliquer sur l'icône, vous savez, la flèche qui représente la fonction partagée, et de choisir l'une des apps compatibles avec les GIFs animés. Voilà pour ce tuto audio, les amis. Nos coups de cœur de la semaine, et on commence avec toi François, un produit de chez Kensington.
Oui, c'est un produit qui avait été présenté au CES virtuel au mois de janvier. Il y a les premiers tests qui sont apparus sur des sites américains en l'occurrence. Donc c'est le Kensington Studio Dock. Donc c'est un super dock en aluminium pour iPad. Donc ça fonctionne avec l'iPad Pro 11 pouces, 12 pouces 9 et avec l'iPad Air. Et en fait, ça lui donne un aspect de petit iMac, on va dire. Le pied ressemble énormément au pied de l'écran Apple XDR, oui. Super giga méga cool. Et donc concrètement, vous pluguez l'iPad sur le pied et il y a un petit adaptateur. En fait, vous le branchez en USB-C sur le dos. À première vue, je ne crois pas qu'il soit compatible avec le Smart Connector. Il faut vraiment le brancher en USB-C. Et en fait, du coup, vous avez au dos de ce superbe dock, de cette belle pièce en aluminium, vous avez des prises USB classiques, vous avez une prise Ethernet, et vous avez une prise HDMI, et vous avez moyen de l'alimenter. Et donc, vous pouvez tout à fait imaginer, quand vous rentrez chez vous, vous pluguez l'iPad dessus, et vous l'avez branché à un clavier, pourquoi pas, ou à un autre écran. Ouais. C'est super bien. Il est très, gueule, hein. Très classe.
Et en plus, il pivote.
Il a de la gueule.
Tu as vu, il pivote.
Il pivote en plus, comme effectivement, Eddie, tu fais bien d'insister là-dessus.
Et c'est il super vaut 1000 euros, donc c'est ça
comme le... Non, mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des chargeurs à induction.
Oui.
Sur l'avant du pied, donc vous pouvez mettre vos AirPods à charger, vous pouvez mettre votre iPhone. Il est très bien, mais il vaut 400 $.
400 $.
Et ça fait mal. Bon, vous allez me dire, comparer un Magic Keyboard, c'est rien. Enfin, c'est le même prix que le Magic Keyboard, en fait. Mais voilà, je crois même qu'il y a un lecteur de cartes. Enfin, c'est juste voilà, une dinguerie et c'est une superbe idée. Ouais, vous avez une prise pour mettre des cartes SD sur le côté. Ouais. Vous avez une prise casque. C'est topissime, mais 400 €. Enfin, 400 $, c'est cher. Donc, c'est dommage parce que c'est un très bel appareil.
Ouais, il y a Ethernet, HDMI 4K 2.0, jack 3.5, trois ports USB-A, un port USB-C avec 15 watts en sortie, un lecteur de carte SD donc, et deux ports Kensington pour l'attacher,
le fixer,
sécuriser, meuble, oui. Quoi. Ouais, ouais.
Pour éviter de vous le faire voler.
Donc, dommage pour le prix, là. Mais très beau. On va essayer de le tester, on va essayer de le récupérer.
Ouais, ça hein? serait bien.
Ah, ça serait bien. Bon, Élie, toi, tu veux nous emmener à Rio la semaine prochaine?
Ouais, alors je vous fais la bande-annonce. Donc, c'était un teaser bande-annonce. Tout simplement parce que j'ai enfin reçu le produit que j'attendais depuis longtemps, donc c'est-à-dire ce chauffage connecté et qui fonctionne sous HomeKit et qui fonctionne en Wi-Fi. Et mais là, je ne veux pas vous parler de chez Rio, d'où le pourquoi. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'allais vous emmener faire du tir à l'arc, car le produit s'appelle Arc. Donc Arc Rio, bon, ben voilà. Mais je vais pas vous parler du produit parce que je réserve ça pour le test complet, qui sera le test de la semaine prochaine. Donc, puisqu'il faut commencer par quelqu'un, donc on va le faire. Mais c'était juste un petit mot pour dire que cette société, dont je vais vous parler en détail la semaine prochaine, et ce produit, ils sont super réactifs parce que c'était juste un petit incident de parcours. Ils sont à Londres, donc. Première livraison de produit, évidemment, Brexit. Donc, le produit part, il se fait bloquer à la douane. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'était pas arrivé avant. Et la douane dit, bop, 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 bop. Eux, Grande-Bretagne, font pas partie de l'Union européenne. Produit arrive en France, vous allez payer la TVA. Je lui dis, oui, mais la TVA, je l'ai déjà payée en Angleterre, là-bas, parce que je peux pas payer deux fois. Hein. C'est contraire à la loi de payer deux fois la même taxe. Hein. Monsieur, on veut rien savoir. De toute façon, pour l'instant, les accords, nanu, on sait pas trop bien, mais... Nous, on voit arriver le produit, vous payez la TVA, sinon on le garde. Je suis bon, bah quand même. Donc, du coup, j'ai déboursé la TVA. Ils m'ont dit, oui, mais monsieur, on a des frais. On a géré un dossier, etc. Donc, vous allez payer 20 € de frais. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce que monsieur, sinon on garde le produit. Je dis, bah d'accord. Donc, je paye. Et donc, j'en parle quand même à Rio. Donc, j'ai dit, écoutez, bon, le produit va... enfin arrivé, mais voilà ce qui est arrivé à la douane. J'envoie un petit mail en disant je trouve pas ça très normal, etc. Et donc, directement, le directeur commercial, par retour de mail, c'est-à-dire on aurait dit un SMS, c'est-à-dire que j'envoie le mail, il me renvoie directement l'ensemble des frais en disant, écoutez, il y a eu une erreur. Nos process avec l'Europe sont pas encore totalement aboutis à travers nos transporteurs, donc on s'excuse. Et voici le remboursement intégral des sommes que vous avez payées. Et j'ai trouvé ça admirable. Ça s'est fait en 3 minutes. Donc vraiment, au niveau support client, au niveau, avec en plus un mot d'excuse, au niveau gentillesse et réactivité, les mecs sont topissimes. Et leur produit, je vous en parlerai la semaine prochaine.
Et de 30. C'est une très belle étape hein, pour nous et pour nous avec vous et avec l'année qui a commencé et qui nous attend. Je me dis qu'on va faire péter les compteurs. iWeek sur Twitter, @iWeekNews et iWeek sur Instagram, @iWeek.news. On met le paquet sur les réseaux avec 4 fois plus de posts et d'infos. Et donc, suivez-nous et ne ratez plus rien. Abonnez-vous ou plutôt, puisque c'est comme ça qu'on dit désormais, suivez iWeek, la semaine Apple, le podcast. Un clic sur votre plateforme de podcast préférée, c'est tellement plus pratique. Patreon.com/iWeek, adresse vitale pour nous, puisque ce sont vos dons qui permettent à iWeek d'exister et nous permettent d'imaginer la suite en mode plus et mieux. Vos dons qui ont largement servi à commander le MacBook Air M1 qui est arrivé ce matin. Il va nous servir pour la prochaine keynote, si elle a lieu, et vous allez pouvoir suivre ce qu'on en fait sur nos comptes Twitter et Insta, justement. À propos de Patreon, alors dans les prochains jours, on va simplifier tout ça. On va simplifier les niveaux de soutien. On va rendre les quelques choix beaucoup plus lisibles. Et vous allez tous pouvoir bénéficier de la version vidéo du podcast qui va devenir aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne d'iWeek, à partir de la semaine prochaine et donc de l'épisode 31. Jeudi avant 20h, on ne change rien pour le podcast audio qui reste prioritaire. Mais vendredi dans la journée, vous aurez aussi la version vidéo désormais sur Patreon et donc sur YouTube. Évidemment, ceux d'entre vous qui ont accepté un effort particulier pour accéder à cette version vidéo sur Patreon, on ne vous en voudra pas si vous avez envie de rétrograder un petit peu. Et puis, il y a le site web. Alors, on s'est promis de ne plus en parler tant qu'il ne serait pas là. Alors, on va s'y tenir, mais sachez que votre attente sera bientôt récompensée. Voilà pour nos news à nous. C'est des bonnes nouvelles, non, François ?
Super.
Plein de bonnes nouvelles au programme et on sera très heureux de continuer à partager notre passion avec vous.
Élie ?
Bah, je suis ravi. En plus, on était d'accord. On vous a écouté, comme Benjamin nous l'a dit depuis le début. Et on avait envie de vous rapprocher de nous et de vous offrir encore plus. Et donc, je pense qu'on va dans le bon sens.
Super les amis, amitié et pensée pour Jean-Christophe qui sera de retour très très vite. Passez une très belle journée, un bon week-end et rendez-vous jeudi prochain, on sera le 25 mars avant 20h, si ce n'est avant. Et je pense bien sûr à une éventuelle keynote qui pourrait être annoncée dans les minutes ou les heures qui viennent. Keynote qui pourrait peut-être encore avoir lieu le 23 mars ou plus tard. On est sûr qu'il y en aura une, on sait juste pas du tout quand, mais ça reste une possibilité. Salut à tous, bisous aux filles et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Salut.